Bonjour le Book Club, bonjour Beata. J'ai lu votre livre il y a quelques jours et j'ai beaucoup aimé. Personnellement, j'ai été particulièrement ébahie par cet aspect du pouvoir de la photo. Une fois entamée, je n'ai pas pu le lâcher et je l'ai donc lu d'une traite en un jour.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
1994, c'était il y a 30 ans. C'est vertigineux, mais il faut au moins ce temps-là, des lectures, un parcours, des rencontres, de l'expérience, une enquête, pour pouvoir écrire le premier paragraphe d'un livre important qui raconte comment des enfants, des adolescents et pas que, sont sauvés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda à la faveur d'un convoi humanitaire. Au-delà de ce seul récit et de ses nombreuses implications, il s'y tisse une réflexion importante, elle aussi, sur les images, sur la mémoire et sur la transmission de celle-ci. Beata Mumbui-Meres est notre invitée pour son livre Le Convoi, paru aux éditions Flammarion. Vers 15h50, comme chaque jeudi, nous prenons des nouvelles du livre en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, Marie-Pierre Véro nous appelle de Turquie pour nous parler d'une bibliothèque bien particulière, imaginée par les éboueurs de la ville d'Ankara. Et en fin d'émission, on se quitte toujours en musique parce que vous nous aidez à en trouver dans les livres. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Beata Mumbui-Meres.
Bonjour Marie Richeux.
Votre livre s'appelle Le Convoi. Il a paru aux éditions Flammarion. Il est sous-titré Récit. Bienvenue à vous dans le Book Club.
Merci.
Il y a un autre livre que vous venez juste de feuilleter. Il s'appelle Culbuter le malheur. Il a paru, lui, aux éditions Mémoire d'Encrier. C'est un recueil de poèmes et j'espère qu'on aura l'occasion de l'évoquer à la toute fin de cette émission. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. Votre livre est tissé de lecture. Je parle des citations qui sont en exergue des chapitres, mais on vous sent lectrice. Enfin, on vous sent en train d'écrire avec tout ce que vous avez lu. Donc, on va rembobiner un tout petit peu l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel décor, éventuellement à côté de qui vous avez appris à lire?
Oui, bien sûr. C'est toute une histoire, cet apprentissage, parce que j'ai appris à lire et à écrire à l'école internationale belge de Butare, au Rwanda, où je suis née. Il se fait que quand je suis arrivée dans cette école, je ne parlais pas le français, bien que ma mère le parle, mais j'avais appris le Kinyarwanda. Et l'institutrice qui s'est occupée de moi à la maternelle, mais qui ensuite s'est aussi occupée de moi en CP, alors c'est la première primaire dans le système belge, elle s'appelle Michel Sauvé. Et donc ce mot de Sauvé, ce nom de Sauvé n'est pas anodin puisqu'elle m'a appris, elle m'a appris le français qui est une langue qui quelque part, parmi d'autres choses, m'a sauvée pendant le génocide contre les Tutsis. Et puis elle m'a fait rentrer dans la lecture avec... toute une histoire aussi, parce que c'était la seule prof française de cette école belge, qu'elle a décidé de me faire sauter la dernière année de la maternelle et que ça a créé une affaire pas possible. J'étais une enfant venant de classe moyenne, modeste, élevée seule par ma maman, dans une école qui était plutôt fréquentée par des expatriés et des enfants de riches rwandais. Donc j'étais déjà un peu différente. Et le fait qu'elle décide que je pouvais aller directement en CP, c'était pas évident. Et pour prouver, contre l'avis de tous et toutes, qu'elle avait eu raison, quand j'étais en première primaire, elle a continué à me prendre chez elle tous les soirs pour faire les devoirs. Et donc,
grande affaire. Cette
c'était presque sous le signe du sauvetage, mais également. Quelque part, déjà un combat.
Mmh. On en parlera tout à l'heure. La langue française et le fait de pouvoir la parler couramment dans un moment de courage et d'instinct de survie inouï, vous fait brandir cette carte qui sera un sauvetage, un parmi les autres, Beata Mumbui-Meres. Si on continue et si on essaie de décrire la relation que vous aviez à la lecture, aux livres ou aux histoires, vous en parleriez comment? Dans l'enfance? Dans l'adolescence?
Centrale. Moi, j'avais toujours vu ma maman lire. Elle avait été institutrice avant de m'avoir. Et donc, dès que j'ai pu, je me suis précipitée vers les livres. Il se fait qu'à Butare, fait assez rare pour une petite ville d'Afrique, Afrique de l'Est, comme ça, dans les années 80, il y avait deux bibliothèques et une librairie, notamment le Centre culturel français, où j'allais, elle m'a inscrit très vite. Et quand le centre culturel était fermé pendant l'été. Il y avait une vieille bibliothèque comme ça, où vraiment on pouvait trouver des livres de l'époque coloniale, qui était l'extension universitaire. Donc j'ai passé énormément de temps dans ces deux bibliothèques-là, parce qu'aussi mes camarades de classe partaient souvent en vacances à l'étranger, et que moi je ne partais jamais en vacances, que j'étais fille unique. Donc ça, c'était vraiment mes compagnons. Et puis voilà, j'avais cet exemple de maman qui avait, elle était à l'école secondaire dans les années 60-70 et qui avait développé comme ça un amour de la littérature, enfin voilà, des vieux classiques français. Elle me citait des extraits de du Petit Prince pour m'endormir. Donc heureusement que les livres étaient là pour faire passer l'enfance.
Souvent dans le questionnaire de lecture, je demande, ou de temps en temps, je demande s'il existe une photo de vous avec un livre à la main. Donc je peux vous adresser cette question, mais en vous écoutant, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, votre mère, avec un livre à la main. Est-ce que cette image-là, elle existe dans votre tête, et ce serait rattaché à quoi ?
Un moment du week-end, il n'y avait pas grand-chose à faire à Boutaré, donc... C'était le samedi matin, on allait au centre culturel, on ramenait... des livres, chacune avec sa carte. C'était des cartes en carton, comme ça. Et non, il n'y a pas de photo de moi avec un livre à la main. On n'avait pas d'appareil photo. Donc les photos que nous avions, c'était souvent celles qui avaient été prises soit quand on allait chez le photographe du quartier arabe, qui avait ces espèces de décors un peu kitsch, comme ça, peints. Ou soit parce que des gens nous avaient prises en photo et ça pouvait être essentiellement des Occidentaux, donc les professeurs de l'école belge, des amis. Mais je n'ai pas de souvenir de photos de moi avec un livre à la main. Pourtant, j'étais pratiquement tout le temps avec un livre à la main.
Dans votre livre à vous, vous parlez beaucoup de votre quête dans l'absolu, de votre enquête, mais aussi de vos lectures. Peut-être on n'y vient pas immédiatement, mais si vous deviez essayer de définir ce que vous cherchez dans les livres, dans l'absolu, je veux dire, si on ne se concentre pas sur la seule enquête que vous avez menée sur 1994 et après, mais si vous vous demandez, vous, c'est quoi pour vous lire ?
Ça dépend du moment de la vie. Je pense qu'enfant, il y avait l'idée de découvrir cet Occident auquel on me renvoyait parce que j'étais métisse, mais où je n'avais jamais été. Il y avait de l'évasion, il y avait tromper l'ennui. Et puis un jour, je pense qu'il y a eu aussi l'idée de se sentir moins seule dans son expérience de vie, qui pouvait être une expérience d'extranéité, une expérience de tentative d'extermination. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là de... Je crois que c'est David Foster Wallace qui disait ça, qu'on était très solitaire, mais que dans les livres, on était... On brisait ce chagrin de la solitude qui est le lot de tout un chacun, mais qui peut être particulièrement crucial à des moments soit de construction identitaire, soit de reconstruction après une catastrophe.
Est-ce qu'il y a eu des moments importants dans votre parcours de lectrice ? Des territoires qui se sont ouverts à vous et qui vous ont à jamais changé ?
Je dirais en passant d'un genre à l'autre, c'est-à-dire que je commence par des livres pour enfants, et ensuite la bande dessinée, ensuite les premiers petits romans, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, et puis à l'adolescence, les premiers romans pour adultes. Et ensuite, et jusqu'alors, jusqu'à ce que j'arrive en France en 94, je n'avais pratiquement lu que de la littérature occidentale, française, francophone. Et quand j'arrive en France, il y aura deux moments de lecture, ou en tout cas deux types de lecture importants. C'est d'une part lire des textes écrits par des survivants de la Shoah ou des survivants de l'expérience des camps de concentration nazis. Et puis, parce que je découvre aussi dans le regard des Français que je suis considérée comme africaine, comme noire, ou on ne sait pas jamais trop si je suis noire, si je suis arabe, mais en tout cas, d'aller lire les littératures des auteurs afro-caribéens et de comprendre ce que c'est que l'expérience noire à laquelle on m'a envoyé, puisque quand j'étais au Rwanda, on m'a envoyé une expérience blanche que je n'avais pas non plus.
Et donc ça bouge quelque chose, quand vous découvrez des auteurs que jusque-là vous ne lisiez pas.
Ça bouge et ça comble aussi, enfin, ça répond encore une fois cette idée de se dire mais est-ce que je suis seule à sentir ça? Quels sont les mots que je peux mettre sur ça? Enfin, je cite aussi souvent Baldwin hein, quand il disait tu penses que ton chagrin et ton cœur brisé sont sans précédent dans l'expérience humaine et puis tu lis et tu vois que d'autres personnes sont passées par là et peuvent te dire comment en parler, comment l'accepter, comment le traverser.
Ça fait partie de ces auteurs-là, James Baldwin, que vous avez lu à ce moment-là?
Oui. En fait, j'étais étudiante à l'IEP de Lille et une des professeurs qui était d'origine camerounaise me dit « Tu sais, on a un club de lecture. C'était une association qui s'appelait Fest Africa et vient et chacun présente un livre. »
C'est un book club, ça?
C'était un book club. C'était un book club à Lille dans les années... début des années 2000, ouais. Dans un café-restaurant africain comme ça, dans, je pense que c'était quartier d'Oisem. Et on me dit de choisir un livre. Et je me rappelle que le premier que j'ai eu à présenter, c'était le premier d'elle que je lisais. Et c'était son premier livre, c'était L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Et puis ensuite, oui, il y a eu Baldwin, il y a eu Chamoiseau, il y a eu Maryse Condé. Et puis des auteurs d'Afrique subsaharienne comme... Aminata Sofal, et puis des Sud-Africains, Nadine Gordimer, Brink, voilà. Et mon premier book club, et quelques années plus tard, j'allais moi-même en fonder un avec des amis à Bordeaux, un cercle de lecture afro-caribéenne qui existe toujours d'ailleurs.
Aujourd'hui, on trouve quoi sur votre table de chevet?
Alors, il va y avoir des choses qui sont plus... Justement, pour animer le cercle de lecture, le dernier en date était Cocoyance de l'écrivain ivoirien Gauze. J'ai animé la rencontre la semaine dernière avec lui. Et donc, je suis en train de lire. J'ai commencé en anglais, puis bon, finalement, je vais lire en français le dernier roman de Wole Soyinka. Et puis, encore et toujours, effectivement, des auteurs qui parlent d'extermination. Et notamment, là, les deux livres qui sont sortis... chez Actes Sud de Imre Kertész, notamment l'Holocauste comme culture et son dernier journal. Mais il peut y avoir aussi des livres qui attendent d'être lus ou relus. Bah, je pense à la traduction que Yakuta Likavozovic a fait de Beloved, qui attend d'être lu. Et puis des livres qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Voilà.
On va parler de votre livre à vous, qui s'appelle Le Convoi. On a évoqué cette date, 1994, et le Rwanda, ce pays où vous êtes né, où vous avez grandi. Corneille Nyungura a 17 ans, lors d'une génocide des Tutsis au Rwanda. Un groupe armé entre dans la maison familiale dans la nuit du 15 au 16 avril 1994 et assassine ses parents ainsi que ses deux frères et sa petite sœur. Il assiste, lui, au massacre, mais il y survit miraculeusement grâce à une coupure d'électricité. Moi, j'ai 17 ans, quand sa chanson « Parce qu'on vient de loin » sort en France, et connaît un succès phénoménal. En aucun cas, je n'avais conscience que ce titre pouvait évoquer le génocide contre les Tutsis et le parcours dramatique de ce chanteur. Et il me semble que ça raconte aussi comment cette histoire fut inaudible, même quand elle était le sous-texte d'une chanson si populaire. Il y dit « On vit chaque jour comme le dernier et vous feriez pareil si vous saviez ».
Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, on passe le temps à faire des plans pour le lendemain. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé.
parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, oh oh.
Jour après jour,
on voit combien tout est éphémère.
Alors même en amour,
j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière.
L'air est trop lourd
quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière.
Alors on vit chaque jour comme le dernier. Pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
J'ai eu la vie sauve. Le 18 juin 1994, quelques semaines avant la fin du génocide contre les Tutsis, j'ai pu fuir mon pays grâce à un convoi de l'organisation humanitaire suisse Terre des Hommes. J'avais alors 15 ans. L'opération de sauvetage était officiellement réservée à des enfants de moins de 12 ans. Mais ma mère et moi avons pu en faire partie, cachés au fond d'un camion. Dans les semaines qui ont suivi, des gens nous ont dit nous avoir vus, à la télévision, au moment de la traversée de la frontière, entre le Rwanda et le Burundi. Traversée que nous avons effectuée à pied. En 2007, je suis entrée en contact avec l'équipe de la BBC qui avait filmé notre convoi dans l'espoir de récupérer la vidéo sur laquelle je figurais. Je ne suis pas parvenue à trouver cette image. Voici les premiers mots de votre livre « Le convoi » Beata Omumbi-Meres, et d'emblée, il se place du côté de l'image manquante, ou plutôt des images dont, au départ, vous ne savez pas exactement que faire. Pendant tout le chemin que relate le livre, il s'agit de se réapproprier ces images, parfois d'en changer la légende, dans tous les sens du terme, de leur adjoindre des voix et des récits, de réfléchir à leur production et à leur circulation. Qui se souvient? Qui parle? Qui raconte? Qui était là? Qui n'était pas là? Qu'est-ce qui de l'héritage colonial et raciste demeure dans la manière dont le génocide contre les Tutsis au Rwanda a été documenté? Le convoi, c'est un livre où on se déplace beaucoup et où on vous regarde vous déplacer. C'est comme un aller-retour entre vous qui cheminez, nous qui cheminons, vous qui cheminez, nous qui cheminons. Enfin, vous nous embarquez. C'est étrange de le dire vu ce que vous racontez, mais c'est vraiment le cas. Parce que vous racontez aussi tout le temps nécessaire pour parvenir à ce livre-là. Est-ce que vous voulez bien, pour commencer, essayer de nous aider à mesurer ce chemin?
C'est un cheminement de plus de 15 ans, avec des moments d'espoir, des moments de doute, des portes qui se ferment, des incompréhensions, et puis des petits miracles parfois quand je retrouve quelqu'un complètement par hasard et qui me dit moi aussi. Et ce qui est extrêmement bouleversant, c'est que le livre est sorti depuis 2 semaines. Et depuis 2 semaines, j'ai des gens qui me contactent, que ce soit d'autres enfants des convois que je n'avais pas retrouvés jusqu'alors, ou des humanitaires, et qui me disent j'étais là aussi, j'ai des photos, j'ai des souvenirs. Je voudrais des photos, je voudrais des souvenirs. Et ça, je n'avais pas mesuré que ça serait aussi rapide et que... Donc c'est un long, long cheminement et ce n'est pas terminé.
Je dis l'importance des photographies immédiatement, puisque vous vous mettez à la recherche d'un bout de film et puis ensuite il va y avoir des circulations comme ça d'images. Ces images vont être importantes pour ce qu'elles disent, pour ce qu'elles ne disent pas, pour les visages qui y apparaissent, pour ceux que vous pensez y voir apparaître et qui n'apparaissent pas. Bon. Et puis il y a aussi l'idée que votre nom est inscrit nulle part.
En fait, vous ne faites pas officiellement partie du convoi. Il y a quelque chose comme si vous cherchiez la preuve de votre présence dans ces photographies-là. Il y a quelque chose qui tremble aussi dans les photographies. Qu'est-ce que vous avez comme rapport avec toutes ces images-là ? Je sais pas, à un moment donné, j'ai eu l'impression de voir un mur comme ça de travail avec plein d'images.
C'est vrai que c'est comme une enquête. Je sais que j'y étais. Un des enfants des convois d'Hamas, qui est médecin à Kigali maintenant, disait c'est pas tant qu'on ne croit pas que c'est arrivé, c'est que on se demande comment ce qui est arrivé a pu nous arriver et qu'on soit encore fonctionnel aujourd'hui, qu'on soit des hommes et des femmes debout, capables d'aimer nos enfants, capables de... Et je pense que ça, c'est une sorte de question qui sera constamment là. Mais ces photos-là, il y avait... oui, une preuve. Et ensuite, quand j'ai su qu'elles existaient, et je n'ai toujours pas trouvé cette photo manquante, celle où je suis, où on peut vraiment voir mon visage, c'est de me demander quelle tête je pouvais avoir, d'autant que l'humanitaire qui avait organisé ces convois, Alexis Briquet, m'a dit, quand on s'est parlé au téléphone, je me souviens de vous et vous étiez souriante. Et c'est presque anecdotique de se dire, je voudrais voir s'il y a vraiment un sourire, le mystère de ce sourire quelque part, que je n'ai pas encore épuisé. Mais à un moment donné, j'ai aussi pris conscience que je n'étais pas la seule à chercher ces photos. Au début, j'ai cru que c'était presque une lubie d'intellectuels occidentalisés, quelque chose comme ça. Puis j'ai rencontré d'autres enfants qui m'ont dit, oui, on cherche les photos. Et pour le cas de Damas, il avait eu en face de lui un journaliste américain absolument ignoble qui lui a pratiquement claqué la porte au nez. Et ensuite, j'ai commencé aussi à chercher les photos en me disant je les transmettrai. Au départ, je voulais transmettre celles sur lesquelles je n'étais pas. Puis après, je me suis dit, plus je vais en trouver, plus je pourrai documenter ces moments, puisqu'il y a eu plusieurs convois, et les remettre à celles et ceux qui souhaitent les avoir. Peut-être que ça sera leurs enfants, leurs petits-enfants, mais c'est un vrai travail d'histoire, quelque part, mais qui n'est pas fait par une historienne, mais par un des témoins.
Survivante.
Survivante.
Vous partez avec quelles questions au départ ? En 2007, pardon, quand vous vous lancez dans cette grande enquête, vous avez l'impression que votre travail va porter sur quoi, va essayer de répondre à quoi comme question ?
On nous a dit nous avoir vus à la télévision au moment de la traversée. Je veux voir ça, je veux en avoir le cœur net. Je vais à Londres avec mon mari, on rencontre le reporter qui était en charge de ce reportage, Fergal Keane, qui va pas bien du tout, qui souffre de syndrome post-traumatique. Il me remet le documentaire qui a été tourné, dans lequel je retrouve 2 minutes du convoi. Et je ne m'y vois pas et je me dis, ok, tant pis. Ensuite, un autre journaliste, qui lui est sud-africain, qui nous recontacte plus tard, parce que ses étudiants dans l'école de journalisme, les Soto, je pense, lui ont dit « Mais tu devrais retrouver cette personne qui vous avait contacté. » Il m'envoie 4 photos. Et là, chaque fois, je m'approche un peu de l'œil du cyclone, puisque je ne suis pas sur les photos, mais il y a un creux évident où je sais que c'est là où ma maman et moi, nous sommes au fond du camion couchés. Mais là encore, je ne m'y trouve pas et de nouveau, je range les photos. Je ne les ai pas mises sur un mur. Finalement, elles dorment dans mon ordinateur. Et ce n'est que quand je retrouve un des autres enfants des convois que j'ai une sorte de prise de conscience comme ça très tardive en me disant mais les autres enfants qui sont sur les photos peut-être sont-ils dans la même quête que la mienne et donc il faut que je les retrouve. Et de fil en aiguille, en tirant une sorte de fil d'Ariane comme ça, je m'enfonce un peu plus loin dans ce... Oui, c'est une sorte de labyrinthe historique puisque à chaque fois je ne trouve pas ce que je cherchais. Mais je trouve un autre chemin et d'autres questionnements auxquels il s'agit de répondre. Et à la fin, on a une sorte de grand nuage comme ça, avec des enfants retrouvés, des récits, des solidarités retissées, des humanitaires retrouvés, des merci enfin dits. des questions restées sans réponse et le sentiment néanmoins qu'il fallait le faire et que j'étais enfin prête à le faire.
Qu'est-ce que ça raconte selon vous, Beata Oumoubi-Mérès, que votre concentration, la manière dont vous vous intéressez avec tant de ténacité, ce soit sur le moment où vous quittez le pays, au moment où vous êtes évacué par ce convoi humanitaire? Ça ne veut pas dire que les massacres ne sont pas évoqués dans ce livre, ça ne veut pas dire que vous ne traitez pas du génocide contre les Tutsis, mais ça veut dire qu'au départ, votre machine à question, elle n'est pas sur les crimes, elle n'est pas sur ce qui s'est passé avant que vous partiez, mais sur le moment où vous partez.
Parce que pour moi, c'est un vrai moment de bascule. C'est le moment où notre identité devient survivante et survivante du génocide contre les Tutsis du Rwanda, dont on ne pourra jamais se défaire, finalement. On n'est pas survivante uniquement le 7 avril, au moment de la commémoration. C'est présent chaque jour. Et ce moment de bascule-là, c'est à la fois... c'est ce qui tisse le lien entre les temps, finalement. C'est Aaron Appelfeld qui disait très justement que ce que fait la littérature, c'est de faire le lien entre le passé, le présent et le futur. Que sinon, c'est soit du journalisme, soit de l'histoire, soit de la science-fiction. Peut-être que c'est ce moment-là qui est le moment de la littérature. Puisque c'est le moment exact...
Entre les trois temps.
Entre ces trois temps.
Oui, c'est
vrai. Je ne sais pas, je ne l'ai pas conscientisé, je vous le dis au moment où je le pense. Mais... Et c'est pas un hasard non plus, c'est un hasard, mais bon, ça veut dire que c'est ça qui m'intéresse dans la vie, que mon tout premier livre que j'ai publié s'appelle Ejo, qui est ce mot dans notre langue qui veut dire à la fois hier et demain. Donc c'est là que je me situe à cet endroit-là de la transmission, finalement. Et j'essaye de le faire en littérature.
Et de toutes les frontières, puisqu'en fait, il est vraiment aussi question à la fois de les traverser à tous les sens du terme. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous avez eu un très grand appétit de lecture pour les textes qui avaient trait aux témoignages de survivants de la Shoah ou de personnes ayant vécu des camps de concentration nazis. Je voudrais qu'on écoute la voix de Georges Didier Huberman, qui à la fois traite tant des images, dont vous parlez beaucoup, mais aussi de ce que c'est que la figure du témoin et du témoignage.
C'est déjà miraculeux que quelqu'un survive à une telle entreprise de massacre systématique. C'est déjà miraculeux qu'il arrive à le raconter. Parce que je vous rappelle que beaucoup des récits, beaucoup de témoignages, à commencer par le fameux livre de Anthelme, L'espèce humaine, Primo Levi et d'autres, commencent toujours par cette difficulté extraordinaire. Comment je vais raconter ça? Donc, c'est inimaginable, mais je vais le raconter quand même. Mais je vais le raconter malgré tout. Malgré le fait que mon récit, c'est-à-dire mon témoignage, n'arrivera jamais à raconter cela tout à fait. Mais un témoignage, ce n'est pas fait pour raconter tout à fait. Parce que ils savaient bien, eux, les membres du Sonderkommando, qu'au-delà de la barrière du camp, ils le savaient par leurs propres conditions de vie, hein, ils étaient complètement isolés, même du reste du camp, ils savaient bien que personne ne savait exactement comment ça se passait, dans quelles proportions, etc., etc. C'est de ça dont ils ont essayé d'être les témoins, sachant bien que leur témoignage, dans le meilleur des cas, leur survivrait.
Le philosophe Georges Didier Huberman, qui a beaucoup réfléchi à la figure du témoin, au témoignage, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale et l'expérience de la Shoah. Qu'est-ce que vous apportent ces lectures? En quoi est-ce que ça vous permet, Beata Oumoubi-Mérès, cette pensée-là, cette pensée mémorielle, dans le chemin que vous décrivez dans le convoi?
Dans le cas de Georges Didier Huberman, je le cite précisément parce que pendant que j'étais en train d'écrire ce livre... Une bibliothécaire à la Fondation des Treilles m'a mis entre les mains son livre Écorce, où il parle des quatre photos qui ont été du Sonderkommando. Et évidemment, quelque part, puisque depuis le début de je dirais, de ma reconstruction, je suis constamment à aller chercher dans les récits des autres survivantes et survivants quelque chose qui fasse sens pour moi, qui me permette de reprendre langue avec l'humanité quelque part. Ces quatre photos, c'était... Évidemment, j'explique pourquoi je m'intéresse à ces photos, parce que moi j'ai quatre photos, mais moi je suis dans un convoi de la vie. Les autres convois auxquels je fais référence étaient des convois de la mort. Elles ont été prises, dans mon cas, par des journalistes qui n'étaient pas directement menacés. Dans l'autre cas, c'était des gens qui allaient être tués. Mais néanmoins, c'était vraiment un exemple de comment je vais chercher tout dans cette histoire-là des réponses, des mots qui ont la forme exacte de mon chagrin, comme disait le poète. Mais et en même temps, en sachant bien qu'il y a l'unicité de la Shoah, que ce n'est pas exactement la même histoire. Mais c'est dans ces sortes de compagnonnage et d'affinité élective que moi je peux me tenir debout, ou en tout cas que je peux écrire.
Écrire, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est aussi un compagnonnage qui permet l'écriture? Il y a tout un enjeu. Là, ce qu'on entend aussi dans la voix de Georges D. Duberman, c'est tout est miraculeux. Survivre d'abord, puis parler, puis être entendu. Vous évoquez tout le caractère inaudible, la manière pas tant de ne pas pouvoir dire que de ne pas pouvoir être entendu depuis 1994. Donc il y a aussi tout un chemin d'écriture qui est raconté en fait dans le convoi. Par exemple, je pense au chapitre qui s'appelle « Le temps du témoignage » et qui est ouvert par une citation de Charlotte Delbo. C'est comme si c'était aussi une façon de, vous dites, reprendre langue avec l'humanité, mais presque par les textes d'une certaine manière.
Oui. Oui, oui, bien sûr, parce qu'au départ, c'est comme je vous disais, il y a une grande solitude. Et alors, il y a de la parole, il y a eu du témoignage dès 94. Hein, vraiment, c'est important qu'on n'ait pas l'impression que je dis qu'il n'y a pas eu de témoignage avant. Beaucoup de survivantes et de survivants ont témoigné, ont écrit. Et entre nous, on s'en parle beaucoup.
Et vous les citez d'ailleurs.
C'est oui, pas, et je les cite, et je cite notamment Annick Caïtessi-Josan, qui est une enfant des convois, qui a publié deux livres. Néanmoins, c'est vraiment cette idée de comment trouver la forme qui fasse que les gens écoutent, entendent. Et pour moi, ça a été la littérature. D'abord par la fiction, et ensuite est arrivé le temps du témoignage, effectivement.
Temps du témoignage qui est reproduit, entre guillemets, ça transporte votre parole. Dans le livre, on en écoute un extrait.
La salle a une fenêtre donnant sur la grande rue, dont les vitres ont été couvertes d'une peinture beige au moment de la transformation du lieu en entrepôt. Je gratte un petit rond dans cette peinture de la taille d'une bille. Et de là, je me mets à guetter les mouvements au dehors. La rue est généralement déserte. Parfois, passe un Igitero, nom qu'on utilise pour désigner une bande de tueurs et qu'on pourrait traduire par groupe d'attaquants. Alors, je prie pour que aucun ne devine mon œil collé à la vitre, tout en étant incapable de m'éloigner d'elle. On se relaye à ce poste improvisé, d'où il nous arrive de faire signe à l'autre, avec un geste de la main signifiant « Viens voir !» Une après-midi, nous voyons passer un jeune homme hutu, professeur de lycée que nous connaissons. Il avance au ralenti, le visage grave, mangé par une barbe en broussaille. Nous apprendrons plus tard que sa femme Tutsi venait d'être tuée. Le jardinier et son père retournent régulièrement sur leur colline familiale, en périphérie de la ville. À chaque sortie, ils glanent des informations sur le cours du massacre. Ils les partagent avec le cuisinier, qui à son tour nous les transmet. Ce sont eux qui nous renseignent sur le premier meurtre commis dans le centre de Boutaré, le lendemain de la visite du président par intérim, dont le discours a donné le coup d'envoi du génocide chez nous. Nous avons entendu un coup de feu, la balle a atteint Karenzi, un professeur Tutsi de l'université, que nous voyons parfois passer sur sa bicyclette noire. Il a été abattu quasiment en face de l'hôtel, devant la petite bambouseraie qui jouxte la librairie universitaire. À partir de ce jour, on tuera à Boutaré sans discontinuer. Depuis nos différentes cachettes, nous allons entendre des clameurs, des cris, parfois les chiens que les miliciens ont dressés à débusquer les Tutsis, cachés dans la petite forêt de la vallée. Rarement des coups de feu. Il faut payer pour être tué par balle plutôt qu'avec un gourdin clouté ou à la machette. Et même en payant, beaucoup se trouvent trahis. On entend tous ces bruits et l'imagination fait le reste. La gamelle arrive généralement avec le bulletin nécrologique. Aujourd'hui, c'est un tel et un tel qui ont été découpés. Maman, qui était déjà très menue, maigrit à vue d'œil. Moi, je ferme parfois les oreilles et je mange ce que je peux. J'ai décidé de vivre.
Un extrait de votre livre Le Convoi, Beata Umbi Meres, qui est lu par Jeanne Aléos. C'est dans le chapitre du moment du témoignage, donc ça précède ce fameux convoi de l'organisation Terre des Hommes, qui va vous permettre, avec d'autres et avec votre mère notamment, de quitter le Rwanda. Il y a comme un flot de paroles là, dans ces pages-là, donc elles sont portées entre guillemets. Elles sont portées entre guillemets parce que vous les dites, et vous les dites à qui ?
À des lycéens et des lycéennes. Je suis allée, et j'en viens d'ailleurs, cette année encore, dans ce lycée qui s'appelle le lycée Thierry Maulnier à Nice, où des formidables professeurs, depuis des années, mènent un projet pour informer, sensibiliser leurs élèves sur les génocides du XXe siècle. Et les premières années, j'y suis allée pour parler de mes livres, pour parler de ce que c'était qu'écrire en fiction sur le génocide contre les Tutsis. Mais je n'avais jamais livré mon témoignage intime. Je l'approchais de temps en temps, mais de loin. Et pendant que j'écris le convoi, c'est-à-dire un moment où, dans un premier temps, j'ai décidé d'écrire les faits, comment les humanitaires ont organisé, ce qui s'est passé, retrouver certains des enfants. Les professeurs m'appellent, parce que j'étais pas très loin de Nice, et me disent « Est-ce que tu voudrais bien venir parler à nos élèves, comme d'habitude ?» Et j'y vais. Sauf que je porte en moi depuis plusieurs jours cette histoire, je suis vraiment dedans. J'ai commencé à retranscrire aussi ce que d'autres enfants m'ont dit ou ce que j'ai pu retrouver dans leur récit. Et quelque part, je sais que je n'y couperai pas. Je ne peux pas être prête à raconter leur histoire en me mettant moi de côté ou en étant dans un rôle un peu surplombant d'autrice. Il est important que je dise d'où je parle quand j'écris ce livre. Et c'est donc la conjoncture de ces deux choses, de cette réflexion sur dire d'où je parle et me trouver face à cette classe et finalement le témoignage arrive. Et
est-ce que ça change quelque chose que ces personnes devant qui vous parlez à ce moment-là aient l'âge grosso modo que vous avez lorsque vous êtes sauvée ?
Bien sûr. Bien sûr, c'est d'ailleurs uniquement devant les adolescentes et les adolescents que je témoigne. Quelque part, les adultes sont déjà tellement pleins de convictions. Ils savent parfois mieux que nous ce que nous avons vécu. Alors que là, bien sûr que je me vois en eux, en elles, comme je me vois aujourd'hui quand je regarde mon fils qui a 15 ans exactement. Et à ce moment-là, la transmission prend tout son sens, puisque là, il s'agit du futur.
À ces lycéens et à ces lycéennes, vous leur dites « il faut savoir ce qui se passe dans le monde ». C'est ça qui m'a sauvée, c'est d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, ce qui est très étonnant, parce que c'est presque actif, c'est comme si vous vouliez leur donner des outils pour les sauver. Enfin, c'est presque glaçant ces passages-là parce que on sent combien la peur continue d'être là. Et d'ailleurs, vous le décrivez à plusieurs reprises. Vous décrivez aussi que lorsque vous arrêtez d'allaiter votre enfant, vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe si je dois partir comme ça, si tout doit s'arrêter, si je dois fuir, comment je nourris. Enfin, il y a quelque chose qui est permanent dans votre corps. Pourquoi est-ce que vous leur dites qu'il faut être au courant du monde ?
Je dirais que c'est pas tant la peur qu'une prise de position militante, ce que je suis devenue ensuite, finalement. Et j'ai investi peut-être ma peur, peut-être ma colère dans d'autres combats dans ma vie. À 20 ans, je pousse la porte d'Act Up Paris et que je m'engage dans la lutte contre le sida alors que je ne suis pas séropositive, c'est pas forcément mon histoire, mais
vous découvrez aussi dans ce livre-là et vous nous partagez un moment de votre histoire qui vous fait dire que vous avez frôlé la séropositivité et qu'il y a toute une question du viol comme arme de guerre qui met aussi en jeu très fortement le corps des femmes.
Bien sûr que ça, j'en suis consciente. Et ensuite, je m'investirai dans des luttes féministes aussi. Mais quand je suis en face de ces jeunes, c'est vraiment de rester hyper vigilant par rapport à l'ici et maintenant. Leur demander de les inviter à s'intéresser à l'actualité, à être en capacité de voir comment on construit la haine de l'autre, comment les discours tellement généralisés d'antisémitisme, d'islamophobie, de racisme, de sexisme, d'homophobie, tout ça, c'est ici et maintenant. Et en même temps, c'est une façon pour moi de leur dire, bien sûr, je viens témoigner de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans dans une Afrique que vous ne connaissez pas. Mais ce sont des mécanismes qui restent là et qui peuvent être extrêmement dangereux pour nous, pour vous demain. Et pour moi, le témoignage n'a de sens que si il met en lumière la vie des gens et leur permet de ne pas s'endormir dans le confort et l'indifférence, bien sûr.
D'ailleurs, un lycéen qui vous demande pourquoi vous n'avez pas réagi, pourquoi vous ne vous êtes pas, je ne sais plus comment il pose la question d'ailleurs, révolté ou pourquoi vous n'avez pas combattu. Vous vous lancez dans une grande démonstration de la construction, en fait, d'un peuple entier, d'une ethnie entière, comme étant un ennemi inhumain, et vous montrez que c'est quelque chose qui est long dans le temps.
Bien sûr, parce que ce qui s'est passé en 94, les médias ont eu tendance, d'une façon un peu raciste, à dire « oui, mais bon, c'est une violence atavique, on s'entretue là-bas depuis la nuit des temps, cette sorte d'Afrique qui n'est pas sortie du cœur des ténèbres », alors que on sait aujourd'hui que c'était une construction éminemment moderne. Un génocide, c'est moderne, c'était politique, c'est une construction qui va prendre racine dans l'époque coloniale, puisque en réalité, Hutu et Tutsi, nous avons la même culture, la même langue, la même religion, la même couleur de peau. Donc on ne devrait même pas dire que ce sont des ethnies. Et c'est une lecture racialisante fin 19e, début 20e, apportée par la colonisation belge, qui a germé et qui ensuite a abouti à ce génocide. Donc le temps long est important, mais le temps long, on le vit aussi maintenant, c'est-à-dire être en capacité justement de ne pas être dans une consommation de l'information des médias qui est très rapide, revenir à des fondamentaux de qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit que la guerre c'est la paix, enfin toutes ces choses-là, c'est ça qui m'a construit aussi, c'est ça qui m'a permis, moi, de déconstruire et de comprendre ce qui nous était arrivé, si tant est qu'on puisse comprendre.
À la fin du livre, il y a d'ailleurs une crise chronologique qui remet les choses dans le temps long et qui permet en effet de remonter à la colonisation. Une partie de la réflexion que vous menez et que vous portez, je trouve, haut et loin, c'est de se demander ce qui demeure de l'esprit colonisateur et raciste dans la manière dont on a regardé, analysé et documenté le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et vous avez comme ça plusieurs outils théoriques, parmi lesquels Susan Sontag, mais aussi des travaux plus récents d'une thèse sur les images
de Nathan Rera.
Merci, son nom m'échappait. Il y a une production théorique et réflexif qui prend le relais du témoignage. Pour vous, c'était important qu'il y ait aussi cette dimension-là?
Oui, c'était important. C'est-à-dire qu'il y a, vraiment... moi, j'ai eu l'expérience, alors il y a plusieurs années, où on m'attendait, entre guillemets, où des gens ont pu me dire « Est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire, venir témoigner ?» On m'attendait uniquement dans le volet du pathos, ou en tout cas du récit intime, et pas du côté de la réflexion. Et c'est vraiment important de pouvoir être... Dès lors qu'on dit... nous allons raconter depuis notre point de vue, de pouvoir avoir ces outils-là aussi. Et c'est pas pour rien que ce dernier chapitre, je l'ai intitulé « L'heure de nous-mêmes » en faisant référence à un texte important d'Aimé Césaire, une lettre à Maurice Thorez quand il quitte le parti communiste, dans lequel il affirme haut et fort qu'il ne s'agit pas de... quelque part de continuer à copier l'histoire des autres, mais de l'écrire soi-même, où il interroge aussi la notion d'universalisme, où il dit que l'universalisme qui l'intéresse, c'est un universalisme qui accepte les particuliers. Et donc tous ces auteurs-là, tous ces textes-là de réflexion, me permettent aussi, moi, de pouvoir affirmer... que cette histoire-là, je la raconte en connaissance de cause, en la resituant dans ce temps long-là.
Bonjour le Book Club, bonjour Beata. Alors, moi j'ai lu votre livre il y a quelques jours et j'ai beaucoup aimé. Preuve en est, une fois entamé, je n'ai pas pu le lâcher et je l'ai donc lu d'une traite en un jour. On chemine pas à pas à vos côtés dans votre démarche. Et ça crée du coup une sorte de proximité et de lien avec vous. Mais personnellement, j'ai été particulièrement ébahie par cet aspect du pouvoir de la photo et des questions qui vont en découler. Et c'est peut-être à mon sens finalement le but de votre livre, plus que de raconter comment vous avez pu fuir le Rwanda. Et du coup, je voulais savoir, par rapport au pouvoir que peuvent avoir ces photos, est-ce que vous pensez et est-ce que vous souhaiteriez faire bouger les choses avec votre livre au niveau des journalistes et des institutions pour qu'ils puissent prendre conscience du pouvoir de ces photos et justement s'interroger sur son droit de regard, notamment lorsque ces photos s'inscrivent dans un contexte historique fort comme ici, dans une recherche des origines? Merci d'avance pour votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Ludivine, pour à la fois ce témoignage de lecture du livre Le Convoi et pour cette question qui, à mon sens aussi, est fondamentale. On vous écoute, Beata Umbi-Imérez.
Merci, Ludivine, et merci tous les lecteurs et les lectrices du Book Club. Alors, vous avez tout à fait raison, effectivement. Pour moi, c'est j'ai l'espoir que les choses puissent bouger. C'est un livre que j'aurais presque envie d'emmener dans les écoles de journalisme. Il y a vraiment cette idée de comment du fait que la plupart des photos à l'époque ont été prises par des Occidentaux, pratiquement toutes, pour des Occidentaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire de notre place à nous qui sommes uniquement réifiés des objets à qui on ne demande même pas de légender ces images qui nous représentent. Alors évidemment, je ne sais pas quel âge a Ludivine, mais
elle a l'air jeune à sa voix quand même.
Oui, alors c'est vrai que c'est le milieu des années 90, des années 90, et les temps ont radicalement changé aujourd'hui, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde aujourd'hui a un appareil photo dans sa poche, et que les images qui nous arrivent d'événements des quatre coins du monde, de massacres, etc., peuvent venir directement des personnes, des personnes qui sont... victimes, mais à l'époque ce n'était pas du tout le cas. Ça n'empêche que il est vraiment important aujourd'hui de pouvoir se poser la question de qui raconte quoi à qui et comment chacun, chacune à notre niveau, et ça aussi c'est quelque chose que j'apporte, une réflexion que j'apporte aux jeunes. Comment est-ce qu'on peut être acteur de sa vie, comment est-ce qu'on peut être aux manettes quand il s'agit de se raconter? Et quel est le rapport qu'on va avoir justement aux médias, quels qu'ils soient?
Il y a deux choses qui me paraissent très importantes de rappeler dans ce dernier chapitre. C'est à la fois la réflexion de Susan Sontag sur les victimes et les images produites au moment de 2001, du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et la différence qu'elle fait avec la... Donc, peu d'images, une sorte d'éthique comme ça de la production des images des corps meurtris, et profusion d'images pour ce qui touche le continent africain et toutes sortes d'images de corps meurtris. Je pense que c'est très important. Et l'autre chose qui me vient à l'esprit immédiatement, qui est à partir de votre dernier chapitre, c'est une photographie mal légendée. Voilà, d'un jeune homme Hutu qui est balafré, mais dont la légende laisse entendre une autre histoire, enfin quelque chose d'erroné, une façon de raconter l'histoire qui la trompe, qui la distord.
Oui, c'est aussi... alors, il faut savoir qu'il y a eu, dès le génocide et dès le lendemain du génocide, une entreprise révisionniste et négationniste qui a été portée par les extrémistes Hutus, mais aussi par certains politiques français, puisqu'il y avait une collusion de leur dirigeant avec le régime génocidaire qui consistait à renvoyer tout le monde dos à dos, tout le monde est coupable, tout le monde est innocent, et donc qui fait qu'il y a quand même des choses absolument hallucinantes consistant à avoir des images soit des camps de réfugiés Hutus dans l'ex-Zaïre qui étaient donc des Hutus qui avaient fui l'avancée du FPR, l'FPR étant l'armée Tutsi qui a mis fin, je schématise, au génocide. Donc une grande partie des gens qui étaient dans ces camps étaient des génocidaires. Et on les a présentés comme des victimes du génocide, finalement. C'est complètement... Enfin, en termes d'éthique et de déontologie journalistique, c'est catastrophique. Ce qui est dommage, c'est qu'encore aujourd'hui, j'attends vraiment de voir la commémoration des 30 ans qui va avoir lieu au mois d'avril, on a encore dans les médias français, pour illustrer le génocide contre les Tutsis, des images de camps de réfugiés Hutus qui sont projetés. Donc ça veut dire aussi que quelque part, dans vos archives journalistiques, là où vous avez votre fichier Rwanda, s'il vous plaît, essayez de savoir et demander à des gens... quelles sont les bonnes images ? Parce que sinon, on continue quand même à avoir une histoire complètement faussée.
Restez avec nous dans le Book Club encore un instant.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On continue de prendre des nouvelles du livre En dehors de nos frontières. C'est tous les jeudis à 15h50. Et aujourd'hui, on rejoint Marie-Pierre Véraud, qui est notre correspondante à Istanbul. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous emmenez dans une bibliothèque un petit peu particulière.
Ah oui, elle est située en plein cœur du dépôt des camions-bennes des éboueurs de Chankaya. C'est l'un des quartiers de la capitale, Ankara. 1 million d'habitants dans ce quartier, des tonnes de déchets récoltés chaque jour. Et au milieu de ces monceaux de poubelles, des livres. Alors l'initiative de cette bibliothèque est née il y a un peu plus de 6 ans. C'était l'idée des éboueurs, hein. Ils ne se résolvaient pas à jeter ces livres. Ils ont alors contacté la municipalité qui a mis à leur disposition une ancienne usine de briques. Et la bibliothèque s'est installée au rez-de-chaussée. Alors, elle est dans une pièce au toit voûté, comme une caverne, avec un mur et des plafonds de briques rouges. Une caverne, donc, désormais gorgée de trésors littéraires.
Et c'est un sacré trésor littéraire, parce qu'on compte là 10 000 livres, c'est ça ?
Oui, serré sur les étagères, hein, avec un grand rayon littérature turque et étrangère qui a beaucoup de succès. Celui sur les sciences aussi. Notre rayon assez important est consacré à la mythologie et il y a beaucoup de livres pour enfants. Mais vous savez, 10 000 livres là, mais dans un bâtiment à côté, il y a 30 000 ouvrages supplémentaires qui s'empilent du sol au plafond, qui attendent d'être répertoriés et classés. Et les livres continuent à affluer parce que c'est un cercle vertueux, hein. Les gens ont eu vent de l'initiative et d'ailleurs très populaire, hein, ici en Turquie. De nombreuses télévisions sont venues tourner des reportages dans cette bibliothèque si particulière. Et désormais, les habitants du quartier de Chankaya déposent leurs livres dans un sac à côté de la poubelle, quand d'autres viennent directement les apporter au dépôt et restent parfois pour feuilleter des ouvrages.
Mais du coup, c'est la bibliothèque des éboueurs ?
Et au début, elle était réservée aux éboueurs et à leurs familles pour emprunter ou pour venir lire sur place, notamment au moment des pauses entre deux tournées. Et c'est à ce moment-là tout le monde du livre qui s'est ouvert à eux. L'un me disait sa fierté de rapporter des livres à la maison, à ses enfants et d'en parler avec eux parce que lui, petit, eh bien, il n'y avait pas accès. Un autre m'a raconté qu'il venait parfois juste pour respirer l'odeur des livres, pour voyager en regardant les titres. Parce que même si on n'a pas le temps de lire, eh bien, c'est beaucoup de richesse. Les titres nous emportent, me disait-il. On passe du bonheur au malheur. Et puis, vous savez, ce qu'ils aiment aussi, ces éboueurs, c'est découvrir des lettres d'amour insérées entre les pages. Ils se prennent à rêver. Ils se demandent si ces histoires se sont concrétisées. Et moi, me disait l'un d'eux, j'ai de la chance, je suis sur place et je peux venir à tout moment.
Vous avez pu le constater, Marie-Pierre, vous êtes allée là-bas?
Oui, j'y ai passé une petite matinée et les allées et venues eh bien, sont incessantes. Les éboueurs, car leur camion, ils viennent flâner entre les rayons, ils viennent boire un thé et puis ils repartent en tournée et leurs discussions ont changé. Maintenant, quand ils se retrouvent, ils citent les auteurs, leurs phrases, ils se conseillent des lectures parce que, disent-ils, le livre fait grandir. Et puis l'un d'eux me disait, Mustafa Kemal Atatürk, vous savez, c'est le fondateur de la République turque, attachait beaucoup d'importance au livre et cette bibliothèque a changé notre image à nous, les éboueurs. Les gens nous regardent autrement, ils nous considèrent, et ça, c'est un grand honneur.
Est-ce que ça a été source d'inspiration? Est-ce que cette bibliothèque des éboueurs d'Ankara a fait des petits?
Écoutez, oui, vous me demandiez, d'abord, elle est désormais ouverte à tous, plus simplement aux familles des éboueurs, et bien sûr, elle est gratuite. Vous savez, avec la crise économique, le livre est cher, il n'est pas la priorité des bourses, alors ce lieu, c'est vraiment très précieux pour les foyers modestes. Et puis, cette bibliothèque, elle s'ouvre aux écoles. Les écoles maternelles du quartier viennent régulièrement. D'autres, notamment les écoles rurales en Anatolie qui sont plus défavorisées, appellent, elles demandent tel ou tel livre qu'on leur envoie. 51 écoles dans le pays ont recours au service de cette bibliothèque. Un camion ben a aussi été transformé en bibliothèque. Il sillonne les quartiers à la rencontre des familles. Et puis depuis quelques mois, les éboueurs vont aussi dans les prisons pour apporter des livres.
Et enfin, cette bibliothèque, Marie-Pierre, elle est toute particulière parce qu'elle n'est équipée qu'avec des objets recyclés.
Oui, les tables, les chaises ont été récupérées dans les rues. Les livres trop abîmés sont transformés en lampes de lecture. Rien ne se perd. Les éboueurs ont aussi formé un petit orchestre avec des poubelles qui leur servent de tambour, des instruments fabriqués à partir de tout ce que l'on met au rebut parce que eux, ils n'aiment pas jeter. Et d'ailleurs, ils ont un message. Si vous ne voulez plus d'un livre, ne le jetez pas. Offrez-le à un ami. Les livres ne doivent pas mourir. Et alors que je repartais, j'ai envie de vous raconter cette petite anecdote. Le responsable de la bibliothèque m'a couru après avec un livre inoubliable, dit-il, qu'il a découvert ici dans cette bibliothèque, qu'il a lu et relu. C'est Küçük Prinz, le petit prince, avec lequel il a tenu à poser fièrement devant l'alignement des camions poubelles.
Le petit prince que la maman de Beata Umvieh Meres lui disait, c'est ça, avant de s'endormir. Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. On peut vous réécouter Lecture sans frontières sur franceculture.fr. À cette heure-ci, dans le Book Club, on cherche de la musique dans les livres et on en a trouvé un petit peu dans le vôtre, dans le livre Le Convoi, Beata Umvieh Meres. Vous évoquez une soirée en 2019. Vous êtes à Nice et vous retrouvez deux survivants rwandais, Felicity Yamukura et un chanteur qui s'appelle Jean de Dieu Rwamiyare, dit bonhomme, et on va se quitter avec lui.
Abenshi mu bayoboke genocide imaze gutangira bahungiraga mu nsengero bagira ngo wenda bazarokoka mwuka wera ntabwo yabatabaye roho mutagatifu ntiyatabara abicanyi bigabiza insengero gerenade n'amashoka bibona akazi Amaraso y'abayoboke asize ku nkuta z'insengero imiborogo yabo ntiyigeze irenga igisenge intimba n'agahinda ndabireba kuri aritari aho bateraga ivi bakuramya niho baterewe inkota baragenda
Merci beaucoup, Beata Umbi-Mérès, d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre Le Convoi, paru aux éditions Flammarion. Et puis, il faut encore attendre quelques semaines pour lire votre recueil de poèmes qui s'appelle Culbuté, le malheur, paru lui aux éditions Mémoire d'Encrier. Au son, c'était Anthony Thomasson, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Léa Weiss-Grus, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr, vous abonner au podcast via l'application Radio France. Très bel après-midi sur Culture.